Bonjour à tous, bonjour à toutes, pour ceux que je n'ai pas pu encore saluer. Quelle joie de se retrouver ici ensemble, vivre ces temps bénis. Donc ce matin, j'avais à cœur de vous partager un enseignement qu'on a reçu, donc pour ceux qui ne savent peut-être pas, avec une quarantaine de personnes de cette église. On suit une formation qui s'appelle Equip sur 2 années. C'est une formation de leader. Et donc, je vais en parler dans quelques minutes, mais on est tous leaders. Donc, vous pourrez tous faire cette formation si vous le souhaitez un jour. Et cette formation, elle nous challenge, elle nous touche, elle nous bouleverse, elle nous enseigne. C'est des moments extra. Déjà, rien que de se retrouver à 40 de notre église en train d'être enseigné, de chercher la face du Seigneur, c'est extraordinaire. Mais en plus, avec une qualité d'enseignement et d'enseignant fabuleux. Donc merci Seigneur, je rends grâce à Dieu. Et du coup, on a été pas mal impacté par plusieurs chapitres, par plusieurs enseignements. Et c'est un de ces enseignements dont je veux vous parler ce matin. Parce que moi, ça a touché ma vie, ça a touché mon cœur, ça a renforcé des choses que je croyais, mais ça m'a permis d'aller encore plus loin. Et je pense que ça va parler à plusieurs ce matin, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Et si ce matin, j'ai à cœur de vous parler de ça, c'est que vous êtes tous concernés. Et le titre de ce message, c'est « Vaincre nos géants ». Vaincre nos géants. Alors, qu'est-ce qu'un géant ? C'est vrai que voilà, « Vaincre nos géants », c'est une super phrase. Mais en fait, on a tous à affronter des géants et on a tous des géants dans nos vies. Ça peut être la peur, ça peut être l'intimidation, une situation peut-être compliquée, la colère, une addiction. Bref, il y a plein de synonymes, mais nous sommes tous confrontés à des géants dans notre vie. Mais nous devons apprendre à les vaincre. Soit ces géants qui sont face à nous vont nous intimider, vont nous faire taire et vont nous laisser recroqueviller parce qu'on a peur, soit nous devons les affronter. Et vous savez, il n'y a pas 36 000 issues, il n'y a pas 36 000 chemins. C'est soit tu as peur et tu pars en courant, soit tu affrontes ces géants. Et autre vérité fondamentale que je veux laisser avant de pouvoir aller plus loin, et je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est que nous sommes tous des leaders. Et je veux vous encourager, parce que ce message s'adresse à des leaders, mais nous sommes tous concernés, parce que tu es leader de ta propre vie, de ta famille, peut-être d'une entreprise, d'une église, de tes amis, d'une association, d'une mission, peu importe. Si Dieu t'a placé sur cette terre, s'il t'a donné le souffle de vie, et si tu vis encore aujourd'hui, c'est parce que tu as une mission. Tu as une mission. Et quand on dit leader, c'est peut-être un mot américain qui fait un peu bizarre, mais en fait, par leader, on entend que nous sommes tous des fils et des filles de Dieu qui sommes appelés à porter du fruit et à vaincre et à régner. Et c'est un enseignement que nous voyons dans Genèse 1, verset 28. Vous pouvez prendre votre Bible. Il est dit « Dieu les bénit ». Donc c'est quand Dieu créa le monde, il a créé l'homme et la femme. Et il est écrit dans Genèse 1, verset 28, « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Oui, nous sommes tous appelés à régner. Nous sommes tous appelés à dominer. Alors, dominer, c'est un mot qui est péjoratif aujourd'hui parce que par domination, on entend souvent écrasement, on entend par ça dictature. Donc, il y a toujours ce côté oppression. Alors que quand la Bible parle de dominer, c'est, quand il parle de régner, ce n'est pas un règne de force, ce n'est pas un règne qui fait mal. Mais Jésus, il est venu régner avec un règne d'amour, avec un règne de paix, avec un règne de justice, avec un règne de joie, de réconfort. Toutes ces choses-là, elles sont bonnes. Et ce règne, il amène la vie, il amène la sécurité et il amène les personnes à grandir dans ce règne d'autorité. Et Jésus, son règne n'a pas de fin, les amis. Tout passera, le ciel et la terre, tout passera. Mais le règne de Jésus-Christ, le roi de gloire, ne passera pas. Et nous sommes appelés à régner avec lui. Ce n'est pas seulement lui qui va régner, mais la Bible est très claire. Nous régnerons avec lui. Pourquoi ? Il y a quelques mois, nous avons fêté Pâques. Il y a même pas quelques mois, il y a un mois, nous avons fêté Pâques. Et vous connaissez Pâques. Pâques, et on a eu des baptêmes. Des baptêmes qui nous ont rappelé que nous sommes morts avec Jésus et nous sommes ressuscités avec lui. Et toutes ces promesses sont pour nous. Et la parole est très claire dans Romains 5. Donc, il est dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritiers. C'est-à-dire que nous sommes héritiers de ces promesses. Nous sommes héritiers de ce règne. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'entendre ce message. Parce qu'on est trop souvent assouvi, trop souvent écrasé par nos situations, parce qu'on peut subir. Et il y a des choses difficiles que nous pouvons endurer tous. Mais le Seigneur nous appelle à régner et à combattre les géants qui sont dans nos vies. Alors, il y a plusieurs histoires de géants dans la Bible, mais nous allons nous attarder sur celle-ci. Je pense que vous savez laquelle. Je vais parler de David et de Goliath. Juste, je vais rappeler un peu le contexte pour peut-être ceux qui nous rejoignent et qui découvrent ce que c'est que la Bible et cette histoire de David et Goliath. C'est que la guerre faisait rage, donc il y a plusieurs milliers d'années, entre les Philistins et le peuple de Dieu. Et il y avait un géant qui s'avançait matin et soir depuis 40 jours pour défier l'armée de l'Éternel. Et vous pouvez prendre vos Bibles à Samuel 17, verset 4, et vous allez suivre avec moi. Je vous encourage, venez avec vos Bibles, ça permet de suivre et de sonder les Écritures ensemble. Samuel 17, verset 4 nous dit qu'il s'appelait Goliath, ce géant. Il venait de Gath et mesurait environ 3 mètres de haut. Parfois, je vais dans des lieux et on me dit « Mais qu'est-ce que tu es grand ?» Moi, je fais que 1 m 93. Donc, je vous laisse imaginer, Goliath, c'était 1 mètre de plus. C'était juste incroyable. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Pour ceux qui ont déjà porté 60 kilos, c'est très lourd. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore un peu plus loin, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Donc vous voyez, première chose, quand un géant se dresse devant nous, il y a souvent la peur et l'intimidation qui viennent. Parce que ça fait peur. Un géant de 3 mètres, souvent les géants, ben, ça porte bien son nom, sont géants. Et donc, mais comment je vais faire pour vaincre ce géant ? David, qui était un jeune berger âgé de moins de 20 ans, parce que vous savez qu'à l'époque, pour rentrer dans l'armée de l'Éternel, il fallait avoir au moins 20 ans. Et puisque David n'y était pas, on en déduit qu'il avait moins de 20 ans. Et lui, il a entendu Goliath parler, mais au lieu de fuir, il s'est exclamé au verset 26, vous pouvez le lire avec moi, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Et au verset 32, il dit encore « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Mais Saül dit à David « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Mais David dit à Saül « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge. » Je le frappai et je le tuai. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et il ajouta, écoutez bien, je l'ai mis en gras, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Et au verset 45, alors qu'il s'élance vers ce géant, Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Je vous invite à prier. Alléluia, Seigneur, merci vraiment pour ta présence ce matin, Seigneur, merci parce qu'on peut te sentir. Et Père, je te remercie pour ces versets, je te remercie pour ces chapitres, Seigneur, qui nous encouragent, Seigneur. Que ce n'est pas par nos chars de guerre, que ce n'est pas, Seigneur, par nos lances, Seigneur, que nous gagnons un combat, mais c'est par toi, Seigneur. Et on l'a chanté ce matin, tu combats pour nous. Et je prie, Seigneur, que tu m'inspires dans les paroles, que tu nous touches, ouvre les cœurs, Seigneur, afin, Seigneur, que les géants dans nos vies soient dénoncés et, Seigneur, qu'on puisse les vaincre en ton nom, Jésus-Christ, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Amen. Amen. Quel courage, les amis, quelle foi, David. On estime qu'il avait entre 16 et 18 ans, mais quel courage, quelle foi. À aucun moment dans l'histoire, il n'est relaté que David a douté ou a eu peur de ces géants qui se dressaient devant lui. Et on connaît la fin de l'histoire, hein. David a choisi 5 pierres lisses dans le courant, et il les a mis dans sa besace, et il a juste une fronde, et puis il est allé, et il a pris la première pierre. Il a couru, donc il n'a pas juste marché, mais il a couru vers Goliath, il a jeté cette pierre qui est arrivée. Donc je vous rappelle que Goliath avait un grand casque, donc on peut imaginer qu'il y avait une toute petite place peut-être ici, et tac, et la pierre est arrivée entre ses deux yeux, et Goliath est tombé, raide mort, et David a remporté la bataille. Alors moi, ce matin, j'ai envie de nous poser une question. Qu'est-ce qui caractérise David, ou qu'est-ce qui a caractérisé David, ou plutôt nous concernant, qu'est-ce qui caractérise un tueur de géants? Comment peut-on faire pour vaincre un géant? Qu'est-ce qui caractérise ceux qui arrivent à vaincre les géants de leur vie? Alors, vous avez bien compris que les géants, c'est imagé. Je ne pense pas qu'il y ait des géants encore aujourd'hui, et on n'est pas appelé à tuer. Par contre, on est appelé à régner, on est appelé à dominer, on est appelé à être des victorieux. Je veux dire, la parole est très claire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Hein, Romains 8, je puis tout par celui qui me fortifie. Paul nous dit encore, toutes ces paroles-là, c'est la Bible qui le dit, et nous sommes tous appelés à rentrer dans cette réalité-là. Et parfois, il y a dans nos vies, si vous voulez, des réalités terrestres et des réalités célestes. Et c'est là où, des fois, ce n'est pas évident, parce que nous, on aime, en tant que bons Français, comprendre, voir avec nos yeux, peut-être être un peu comme Thomas qui dit, moi, je ne croirai que ce que je verrai. Alors que le Seigneur nous appelle à rentrer dans une dimension qui, des fois, qui dépasse la réalité. Nos réalités ne changent pas, et je vais le dire un peu plus tard, l'idée ce n'est pas de nier nos faiblesses, ce n'est pas de nier nos difficultés, ce n'est pas de nier peut-être les moments atroces par lesquels nous passons. Mais même dans cette réalité réelle dans laquelle nous entrons, nous pouvons vivre une réalité céleste où le Seigneur peut régner en nous, ce règne peut se manifester et nous pouvons vaincre ces géants même au milieu des plus grandes afflictions. Parce que Dieu règne. Parce que Dieu règne, son règne n'aura pas de fin. Et il veut régner en nous, afin que nous puissions être des changeurs d'atmosphère autour de nous. Alors pour vous encourager et pour vous rassurer, on n'est pas d'emblée un tueur de géants. Lorsque la guerre éclata entre les Philistins et les Israélites, comme je vous l'ai dit, David était encore jeune, peut-être entre 16 et 19 ans. Il était musicien et berger. Alors que ses frères servaient dans l'armée, David fit le coursier pour son père et alla leur apporter à manger et voir s'ils allaient bien. À son arrivée, il découvrit des soldats en position pour le combat sans jamais engager la bataille. Goliath ne partait pas. Cela faisait 40 jours qu'il répétait tous les jours la même chose. Et on peut noter que David a été fidèle dans les tâches les plus modestes. Vous connaissez ce verset, que celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui en confiera des grandes. Et parfois, peut-être que tu n'es pas à la bataille, tu es peut-être t'aimes aller là où il y a de la bataille, là où ça y va, quoi. Et parfois, le Seigneur nous appelle à être fidèles dans les petites choses. Et ce qui est très dur, et c'est ce que David a fait, je pense que lui, qu'on le voit que c'était un combattant, mais il a obéi à son père. Il est resté berger. Il est allé apporter de la nourriture. Ça peut être un peu ingrat, juste aller apporter de la nourriture à ses frères. Mais il a obéi et il a fait ce que son père lui a dit. Il est resté fidèle dans les petites choses. Et vous savez, je pense que parfois, et ça c'est important parce que je pense que ça a parlé à plusieurs, moi en tout cas c'est ce que j'ai vécu, le Seigneur nous fait la grâce parfois de servir une vision de quelqu'un d'autre. Et cela peut être au premier abord frustrant, mais c'est indispensable pour grandir en humilité et apprendre les bases. Parfois c'est dur, parce que tous ici, Dieu vous a donné des rêves, Dieu vous a donné des projets, Dieu vous a donné une mission, Et parfois, on veut de suite aller, vous savez, dans le combat, dire c'est bon, Dieu m'a parlé, je sais qu'il faut que j'aille là. Et parfois, le Seigneur prépare notre cœur, prépare notre caractère, et il va d'abord nous faire servir une vision de quelqu'un d'autre. C'est pas forcément ce qui brûle dans mon cœur, c'est pas forcément ce que j'aurais fait moi, mais ça nous apprend l'humilité et ça nous apprend à être au service des uns et des autres. Et c'est ce que j'ai vécu à diverses reprises. Et un petit souvenir cher à mon cœur, c'est en 2006, j'ai démarré mon premier travail en tant qu'apprenti comptable. Et donc à l'époque déjà, je préparais le bac plus 5. Et donc j'étais parmi les plus gradés dans ce cabinet de 10 salariés, mais sans expérience. Et certains, ils étaient là depuis plus de 20 ans. Et pour être honnête, j'ai très mal démarré. Pourquoi ? Parce que pour moi, dans ma conception, plus tu étais gradé, enfin plus tu étais diplômé, et plus tu avais, je dirais, de la légitimité. Donc je suis arrivé un peu sur mes grands chevaux, disant voilà, ben, toi tu n'as que le bac, moi j'ai le BTS, toi tu n'as que le BTS, hein, moi je prépare mon bac plus 5, tout ça. Et ce n'est pas que j'étais orgueilleux, mais ouais, j'étais un peu fier, tout ça. Et puis m'ont vite fait redescendre sur terre, dire écoute, c'est super, tu prépares ton bac plus 5, mais tu as zéro expérience, donc tu vas te taire et tu vas juste apprendre. Et j'avoue que j'ai appris et j'ai dû aller m'excuser à chaque personne parce que dès les premières semaines, j'avais été un peu voilà, pénible. Et du coup, en fait, j'ai vite repris ma place d'apprenti, dire voilà, je suis là pour apprendre. Mais vous voyez, alors que j'avais déjà un peu ce tempérament et cette âme de chef d'entreprise, j'ai appris pendant plus de 6 ans, en fait, à apprendre et à servir la vision d'un autre employeur, de quelqu'un d'autre, pour apprendre le métier. Et du coup, j'ai changé ma mentalité. Au lieu d'être le donneur de leçons, dire oui, mais j'ai vu en cours que machin, je me suis tué et j'ai dit alors, qu'est-ce que tu as à m'apprendre ? Et ça, je pense qu'on a tous besoin d'avoir cette mentalité-là, de toujours être en soif d'apprendre. Même d'un petit enfant, si, pour tous ceux qui ont des enfants ici, qu'est-ce que les enfants nous apprennent ? Qu'est-ce qu'ils nous foutent ? Des claques, bien sûr, imagées. Mais qu'est-ce qu'on apprend de nos enfants alors qu'ils sont tout petits, mais par leur réflexion, par leur foi, quand je vois ma petite Elsa danser comme ça. Mais waouh, on a tellement à apprendre de nos enfants et de chacun d'entre nous. Soyons dans une position d'humilité et ne sois pas frustré. Peut-être ça parle à plusieurs ici. Si tu sers la vision de quelqu'un d'autre, si aujourd'hui tu boues un peu sur ta chaise, dis mais moi j'ai envie d'y aller. Mais c'est quand Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et c'est peut-être le temps aujourd'hui. Dieu forme ton caractère. Dieu te forge pour que quand tu seras prêt, tu pourras y aller. Vous savez, moi déjà en 2011-12, je me souviens, je travaillais à Nîmes et déjà j'avais à cœur de démarrer mon cabinet comptable. J'avais ça à cœur, mais avec du recul, et je le sentais déjà à l'époque, je n'étais pas prêt. J'avais ni le caractère, ni peut-être toutes les compétences, je n'étais pas prêt encore. Et j'ai dû apprendre. Et dans, dans cette deuxième entreprise, j'ai même été encore plus bas parce que c'était tellement dur pour moi. Donc qu'à l'époque, j'étais quasiment diplômé, j'avais le diplôme d'expert comptable et mon chef me demandait de faire le café pour mes clients. Et là, vous ne pouvez pas savoir, mais pour moi, c'était l'humiliation. J'arrivais avec mon plateau là, tenais les cafés et je disais, putain, mais je suis expert comptable et je sers le café. Mais Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, et alors, tu es expert comptable, mais qu'est-ce que ça fait ? Justement, sois au service des autres. Et si aujourd'hui, je dois refaire le café, parfois ça m'arrive, et ben je le fais et ben avec plaisir. Et en fait, de ne pas avoir certaines tâches, dire ben maintenant que je suis ici, maintenant que je suis pasteur, maintenant que peut-être que tu es cadre, maintenant que tu es chef de famille, et ben c'est tes enfants qui doivent faire ci. Non, montre l'exemple. En fait, on est un bon leader quand on montre l'exemple. Et même aller, si on va nettoyer les WC, si on fait le café, c'est peut-être des tâches ingrates, mais c'est comme ça que les personnes vont nous suivre et c'est comme ça qu'on va apprendre l'humilité. Et l'humilité, vous vous rappelez, c'est quoi ? Précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Donc, premièrement, on n'est pas d'emblée un tueur de géants, mais ça s'apprend. Deuxièmement, les tueurs de géants voient la récompense qu'ils peuvent espérer s'ils arrivent à vaincre le géant. Qu'est-ce que David a fait ? Il allait, même ça a agacé son frère, mais il allait à deux ou trois reprises voir tous les soldats. Il a dit quoi déjà ? Eh ben le roi, si on tue le géant, donc on a quoi ? Et donc il te donnera ta femme, sa fille, pardon, et il te comblera de richesses, tout ça. Ah d'accord. Et puis il allait voir plusieurs comme ça, mais il avait donc en vue la récompense. Et c'est vrai que beaucoup de gens, et peut-être vous ici, vous voyez souvent les obstacles, mais peu d'entre nous voient les objectifs. Et c'est précisément là que réside la différence entre un leader qui porte du fruit et les autres qui n'en portent pas. Le premier voit l'impact et la rétribution de sa prise de risque, mais le deuxième, il y va. Et parfois, eh ben, on dit, ah non, mais si, oui, mais si je vais là, je prends un risque, c'est, ah non, mais, non, mais, en fait, je nous encourage. Dieu a dit, Jésus a dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Vous savez qu'il y a des récompenses au ciel. Dieu, c'est un Dieu qui aime donner des récompenses. Il faut croire que quand on s'approche de Dieu, il y a des récompenses. Et quand on garde en vue cette récompense, quand on garde en vue ce but, comme Paul disait, je cours la course vers le but, ben, il n'est pas en train de regarder peut-être aux géants qui sont autour de lui, dire oui, mais il y a si... Non, il a en direction le but. Et je vous encourage, la Bible est claire à 3-4 reprises dans les Proverbes, il est écrit que faute de vision, le peuple meurt. Gardons la vision, que ce soit dans cette église, dans ta vie, dans ton travail. Est-ce que tu as une vision? Si Dieu t'a donné des rêves, si Dieu t'a donné une vision, garde cette vision. Il y aura des secousses, ça sera difficile. Mais si tu fixes, si tu focuses sur les difficultés, tu n'atteindras jamais le but. Il faut toujours garder le cap. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi Dieu m'a placé ici? Pourquoi Dieu m'a placé dans telle ou telle famille ou dans tel ou tel travail? C'est parce qu'il y a un but, parce qu'il t'appelle à régner et à amener son règne de justice, de paix, d'amour, de joie dans ton travail, là où il t'a placé. Garde le but. Peut-être que tu te fais embêter, peut-être que ce n'est pas confortable, peut-être que voilà, tu préférais que l'herbe paraît mieux ailleurs dans un autre travail, peut-être que Dieu va te faire changer de travail, amen. Mais jusqu'à ce que ça change, sois fidèle dans les petites choses. Continue vraiment d'œuvrer, continue de garder le but et d'œuvrer là où Dieu t'a placé. Et c'est ce que David a fait. Lui, il n'a pas eu peur du géant. Lui, il n'a pas dit oui, mais il est grand. Non, il avait le but. Il a dit, mais c'est qui lui pour oser insulter l'armée du Dieu vivant? Les autres estiment que le risque est trop élevé. Le jour où David a affronté Goliath, tout le monde aurait pu faire de même. Souvent, on encense David, et c'est vrai que bravo, mais on peut tous faire de même dans nos vies aujourd'hui. L'armée a vu Goliath, David a vu Dieu. L'armée a vu le problème, David a vu ce qu'il pouvait faire. Tout est une histoire de perspective. Quelle perspective tu as? Est-ce que tu vois l'armée de Dieu qui est là, ou est-ce que tu vois l'armée des Philistins qui est en face? Est-ce que tu vois le géant qui est en face de toi, ou tu te dis, mais même s'il y a un géant qui fait 6 mètres, Dieu, il est capable de m'aider à le vaincre. Ce que l'on voit est bien réel, et j'insiste bien, il ne s'agit pas de le nier, mais ce n'est pas la réalité ultime. Si tu es malade, si tu passes par un moment de deuil, si tu passes par un moment difficile, il ne s'agit pas de le nier et de dire, non, je vais bien, je suis en bonne santé. Dieu nous appelle à du bon sens. Ok, j'ai une maladie. Par contre, j'ai la perspective que Dieu a le pouvoir de me guérir. Je passe par le deuil peut-être, mais j'ai la perspective que Dieu va me consoler. Parce qu'il est clair, heureux ceux qui pleurent, Matthieu 5, car ils seront consolés. On s'appuie sur la parole de Dieu, et c'est pas, si vous voulez, c'est pas de la méthode Coé à dire oui, plus je vais le répéter. Non, c'est une réalité. Dieu console, Dieu libère, Dieu guérit, Dieu délivre. C'est la réalité. En fait, on a besoin de raisonner avec cette mentalité-là. Et de, je dirais, dans un sens, alors attention, on a besoin d'exprimer nos émotions. Des fois, ça peut être difficile. On peut se mettre en colère, on peut pleurer, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, de garder cette perspective céleste, de dire, Seigneur, je traverse la maladie, je traverse le deuil, je traverse une difficulté, mais tu es là. De proclamer la parole de Dieu. Seigneur, je sais que tu es avec moi jusqu'à la fin des temps. Et qu'avec toi, tout est possible. Tu es le Dieu de l'impossible. Et vous voyez, de proclamer ces paroles-là et de le croire, ça change notre perspective. Et au lieu de s'apitoyer sur soi-même, sur son sort, on traverse notre montagne. Et c'est comme ça qu'on peut vaincre les géants. Alors je nous encourage ce matin, gardons les récompenses en tête, gardons le but, gardons la vision que Dieu nous a donnée de manière générale, mais peut-être précise pour chacun d'entre nous. Cette réalité, nous ne devons jamais l'oublier, qu'il y a un Dieu tout-puissant, débordant d'amour. Vous savez que quand on a démarré Connect il y a bientôt 10 ans, c'était en 2015, donc nous sommes arrivés ici, puis je veux vraiment encore honorer tous ceux qui ont prié pour cette vallée du Rhône et pour Montélimar et pour les environs, parce qu'on a senti qu'on arrivait vraiment dans un terrain préparé. Mais c'est vrai que des personnes toujours bien intentionnées, mais quand on a dit, ben voilà, on démarre une église, tu démarres une église à Montélimar, waouh, ben, franchement, bon courage. Hein, parce que, alors là, j'espère que tu as pris ton casque, que tu as pris ton armure, ça, parce que je te dis que tu vas prendre des coups. Hein. t'es là, ah bon. Mais oui, mais je sais que c'était pas méchant parce qu'ils avaient sûrement souffert tout ça, mais on a senti que voilà, ben franchement sur le coup, on s'est regardé avec Mathieu et puis nos épouses, puis on a dit bon, on va peut-être prendre des coups ou quoi, mais en fait, ça nous a en rien, si vous voulez, enlevé ce zèle et cette conviction, parce que Dieu nous avait donné une vision et nous avait parlé qu'on devait implanter une église à Montélimar et rien ne pouvait, si vous voulez, refroidir ce feu qu'on avait que ici. Un jour, et on commence à le voir aujourd'hui, nous verrons le réveil. Le réveil dans la vallée du Rhône, Dieu nous l'a promis, Dieu nous l'a dit, je vous envoie ici pour qu'un réveil, et ça ne viendra pas que de Connect, il y aura d'autres églises, d'autres leaders qui vont se lever, et amen. Mais vraiment, Dieu commence une œuvre extraordinaire, ou plutôt continue une œuvre extraordinaire dans la vallée du Rhône, ce qui s'est passé il y a plusieurs centaines d'années. Dieu va le refaire ici, tout ce mouvement prophétique, tout ce mouvement de l'esprit. Mais vous voyez, on avait cette vision et rien, même des personnes bien intentionnées mais un peu maladroites, ça ne pouvait pas nous décourager parce qu'on regardait au but. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, quand je vous vois, je dis, mais elle est belle l'église. Quel cadeau de voir les fruits, et je le répète, pas que de nous, mais en tout cas, on en fait partie d'avoir osé se lever et implanter cette église à Montélimar. Il y a une église à Grenoble et plus de 100 personnes aussi. Il y a des fruits de partout. On parle de d'autres implantations d'églises dans le sud, à Gap et ailleurs. 9 églises qui peut-être dans les prochaines années verront le jour, mais quel cadeau d'être participant à ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Donc regardons aux récompenses, regardons au but et à la vision. Troisièmement, les tueurs de géants n'écoutent pas les critiques qui sèment le doute. On peut facilement déterminer le calibre d'une personne à l'ampleur de l'opposition qu'il faut pour la décourager. À l'instar de David, il a 3 choses pour faire face à la critique. Tenir tête à nos Eliab. Eliab, c'est le frère dont je vous ai parlé, que quand il a entendu son petit frère David dire « Mais c'est quoi la récompense ?» Il dit « Mais t'es qui toi, petit insolent là? Qu'est-ce que tu fais là? T'es venu pour voir la bataille, c'est ça ?» Et je peux imaginer, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Samuel est venu Dieu a envoyé Samuel chez le père de David, Isaïe, pour oindre le roi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 7 frères qui sont sortis des baraques là, et dont Eliab. Donc je peux imaginer que Eliab, c'était une baraque. Et David, il nous a dit qu'il était tout petit, enfin, qu'il était jeune, qu'on peut l'imaginer un peu frêle. Et il y avait cette intimidation de son frère Eliab, de dire « Mais t'es qui toi pour venir ici là hein ?» Et je pense qu'on peut avoir des fois dans nos vies des Eliab qui nous intimident émotionnellement. « Qu'est-ce que tu veux faire toi avec rien ?»« Mais t'as rien. » »« Non mais toi t'es pas capable. » Et je me souviens, quand pour le coup, en 2019, Dieu nous a dit avec Elo, c'est le temps de démarrer ma propre entreprise. Et juste pour rappel, Elodie ne travaillait pas, j'étais le seul CDI de la famille, et donc j'ai quitté mon emploi, mais pareil, avec cette conviction, je ne l'ai pas fait sur un coup de tête, que c'était le moment venu, et j'ai quitté mon entreprise pour me mettre à mon compte, et je me souviens que plusieurs collègues, dont mes chefs, me disent, ah ouais, franchement, tu fais ce que tu veux, mais c'est pour toi. Moi, je serais toi. Franchement, moi, je ne l'aurais pas fait. Mais après, tu fais ce que tu veux. Ah bon, c'est vrai, tu veux t'installer. Oh, mais sans salaire, sans... Oh là, mais comment tu vas faire? Et c'est vrai que toutes ces personnes, certes du monde, mais si vous voulez, je sentais le découragement venir, dire, attends, est-ce que je suis en train de faire une bêtise ou pas? Mais on a prié avec Elodie et on savait que c'était le bon moment. Et aujourd'hui, 5 ans après, je vois la bénédiction du Seigneur et je suis content d'avoir tenu tête à mes Eliab qui peut être très bien intentionné, mais qui en tout cas me décourageait et puis m'intimidait émotionnellement. La deuxième chose, c'est tenir tête à nos Saül, qui nous intimident par leur statut. Parfois, des personnes en position d'autorité, employeurs, responsables d'église ou même parents, peuvent nous faire mal par leurs mots ou leurs actions. Cela peut avoir des effets dévastateurs sur nos vies si nous les recevons telles quelles, sans les filtrer à la lumière de ce que Dieu nous dit. Il y a des personnes en position d'autorité, c'est ce que je vous disais aussi un peu avant, mais qui des fois, ben voilà, ont un impact sur nos vies. Quand nos parents nous disent quelque chose, quand on est jeune, quand le papa parle, ben voilà, ça a quelque chose de particulier. Quand peut-être vos employeurs, quand peu importe qui, et il y a parfois, et je sais qu'il y a plusieurs ici, je le sais pour l'avoir reçu, qu'on peut-être été blessé par des personnes en position d'autorité qui, au lieu de vous encourager, qui, au lieu de vous dire, ah, mais vas-y mon fils, vas-y ma fille, c'est beau. Eh bien, on vous a presque, bam, on vous a arrêté dans vos élans de créativité, dans vos élans d'entrepreneuriat ou autre. Et on a besoin parfois de tenir tête à des Saül qui peuvent nous intimider et qui peuvent nous faire peur par leur statut. Mais il ne faut pas avoir peur. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu dit de toi. Et je veux vraiment prendre 30 secondes pour vous dire ça. Je sens que c'est important de le rappeler. Parfois, on répète des choses, hein, les amis, mais c'est parce qu'on a besoin que ça rentre. C'est peut-être des fois au bout de la 9e fois que ça rentre dans notre cœur. Ce qui compte, c'est pas ce que les autres pensent de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Et je veux vous dire à chacun d'entre vous ici, Dieu est fier de toi. Dieu, pour Dieu, tu es son fils, tu es sa fille, tu es son enfant bien-aimé. Tu as la valeur à ses yeux. Tu es précieux, tu es précieuse. Et lui, il croit en toi. Même si personne ne croit en toi, lui, il croit en toi. Simplement, obéis à sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Et tu porteras du fruit pour la gloire de son nom. Toujours, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est ça le plus important. Troisièmement, tenir tête à nos Goliaths, qui nous intimident par leur pouvoir. Oh, qu'il est difficile de confronter des personnes qui nous font peur. Je pense que tous ici, on l'a expérimenté plus ou moins jeune, mais des personnes, on n'ose pas trop leur parler, leur tenir tête, parce que vraiment, ils ont une carrure, ils ont quelque chose, et ils ont, voilà, et comme on le dit, pardon pour le mot, il est un peu familier, mais ils ont une grande gueule, et des fois, voilà, waouh, on a peur de se faire démonter par nos mots. Par leurs mots, parce que voilà, et on n'oserait jamais remettre en question ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent. Et pourtant, j'ai la conviction que nous aurons tous à un moment donné à oser affirmer ce que nous pensons et peut-être ce que nous pensons qui est différent de ce qu'ils pensent, voire de prendre une voie différente de ces personnes-là. Et ces personnes, encore une fois, qui sont sûrement super, et je vais vous raconter un petit témoignage juste après, toujours super, mais encore une fois de plus, ce sont des humains comme vous et moi. Parfois ils sont bien inspirés, parfois mal, et je pense que le Seigneur veut nous encourager à confronter ces personnes. Quand je dis confronter, c'est pas leur faire du mal, c'est pas mal leur parler, c'est juste des fois savoir prendre position, dire bah, tu vois là je suis pas d'accord, là moi je pense plutôt que Dieu m'appelle à ça ou je, voilà, je suis juste pas d'accord avec toi, mais voilà, on peut faire ça dans l'amour et dans la paix, il y a pas de souci. Mais vous voyez, d'oser prendre position. Et moi personnellement, c'est ce que j'ai beaucoup vécu à Nîmes. Dans mon église, là où j'ai grandi, on avait donc un pasteur extra qui a tellement œuvré pour Nîmes, qui a rejoint le Seigneur aujourd'hui, mais qui a eu un impact sur ma vie et sur la famille Sarkis et même sur les environs de Nîmes extra. C'est lui qui a lancé le Noël du cœur, qu'on peut revoir, je crois, à Valence et dans d'autres villes. Mais si je ne me trompe pas, il a été précurseur pour ça en France et plein d'autres œuvres comme ça, extraordinaires. Mais pétard, c'était un sacré... Voilà, il était très imposant, et je me rappelle jeune, quand j'avais 16 ou 18 ans, où, franchement, je n'aurais jamais osé dire non. Mais j'ai senti que Dieu m'a appris, je réinsiste bien, dans l'amour, mais des fois, à dire, écoute, je ne suis pas d'accord. Et là, je voyais que je ne savais pas si j'allais en prendre une ou pas, mais j'ai osé, et parfois, voilà, c'était assez musclé, hein, et je réinsiste, je n'étais ni insultant, mais juste de prendre position dans l'amour et dire, écoute, non, là, je pense que moi, plutôt, je vais faire ça. Et des fois, ce n'est pas facile de confronter des personnes, des Goliaths pour nous qui, waouh, mais je pense que c'est important, parce que je le répète, ce qui compte, ce n'est pas de savoir si il a raison ou pas, c'est qu'est-ce que Dieu pense. Et là, à ces moments-là, quand j'ai pris position, je savais, j'avais cette conviction que Dieu m'avait parlé et que je devais me positionner et dire non, moi, Dieu me dit de faire ça, ça, ça et ça. Et je vous encourage, vous avez tous peut-être des Goliaths, nous avons tous des Goliaths dans nos vies, où il faut oser dire les choses, je le répète pour que ce soit pas mal compris ce que je dis, dans l'amour, dans la paix, dans l'honneur, et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, mais de prendre position. Et des fois, ça peut être aussi avec ses parents, ça peut être avec des personnes en autorité, des personnes qu'on idéalise un peu. C'est important de les remettre à leur bonne place. Le seul maître de nos vies, c'est Jésus. C'est ce que lui pense, c'est ce que lui compte, et c'est qu'à lui que nous devons pleinement obéir. Quatrièmement, les tueurs de géants ne craignent pas les défis. L'armée des Israélites tremblait de peur, et pour cause. Goliath était l'adversaire le plus féroce et le plus puissant qu'ils aient jamais vu. David, quant à lui, voulait savoir qui était celui qui osait défier les armées du Dieu vivant. L'armée voyait Goliath comme un ennemi impossible à abattre. David, lui, le voyait comme quelqu'un d'impossible à rater. On peut aisément se sentir submergé dans une situation semblable à celle qu'a rencontrée David. Et avant de préciser tout ça, on passe tous par des défis. Et c'est vrai qu'on aura tous des défis. Dieu ne nous a jamais promis que ça serait un long fleuve tranquille, notre vie. Par contre, il a promis qu'il serait toujours avec nous et qu'il nous donnerait tout et que jamais, jamais, jamais nous serions éprouvés au-delà de nos forces. Ceci étant dit, si je sais que Dieu ne permettra jamais que je sois éprouvé au-delà de nos forces, alors il nous aura toujours le moyen de nous en sortir, toujours le moyen d'avancer, toujours le moyen de passer des situations qui nous paraissent impassables, qui nous paraissent tellement difficiles. Mais il est là et il nous donne la force, il nous donne la sagesse, il nous donne l'amour pour passer ces situations. Alors ne soyons pas des chrétiens qui ont peur des défis, mais au contraire, accueillons-nous et dire « Ok, il y a un défi, et bien je me tiens à la brèche. Je me tiens à la brèche pour prier, pour intercéder, pour chercher la face du Seigneur. » C'est la meilleure réponse qu'on peut faire à un défi, de ne pas faire les choses par nos propres forces, mais chercher le conseil du Seigneur Tout-Puissant. Nos géants ont une réputation. Nos géants peuvent nous harceler continuellement. Nos géants ne cessent de nous vaincre psychologiquement peut-être. Nos alliés ont peur. On voit l'armée, ils avaient peur, ils n'osaient pas aller attaquer. Nous nous unissons, parfois même on peut se réunir ensemble, mais nous n'affrontons jamais le géant. En fait, il y a le géant qui est là, on se réunit, ouais c'est chouette, mais en fait personne ne bouge parce qu'on a peur. Et notre leader lui-même, peut-être certains de vos leaders, lui-même a peut-être peur. Peut-être peur du géant, ça m'est arrivé plusieurs fois et puis tous, des fois on est avec des leaders, on se dit bah, c'est bon, lui il va gérer, mais en fait on se rend compte qu'il a aussi peur que nous et ça peut tous nous arriver. Mais pourquoi David ne s'est-il pas laissé démolir par rapport à l'armée? Son plus grand désir était que Dieu soit glorifié. Ce qui compte, les amis, ce qui compte, c'est que nos vies glorifient le Seigneur. Le souffle que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Et si tu as mis sur cette terre, je le répète, c'est pour une mission. Ce qui compte, c'est que Dieu soit glorifié au travers de nos vies. David désirait aussi la récompense et sa confiance reposait sur l'assurance que Dieu serait sa force. Ne craignons pas les défis, mais au contraire, vivons-les comme des épreuves nous permettant de grandir dans notre foi et notre confiance en Dieu. Rappelons-nous ces paroles de Romains 5, que les défis, les épreuves produisent la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Et je ne pense pas que Dieu envoie souvent des épreuves difficiles par lesquelles nous pouvons passer. C'est par contre ce qui est sûr, et là je ne pense pas me tromper, il utilise tout le temps les épreuves et les difficultés par lesquelles nous passons pour nous faire grandir et nous parler et nous inspirer. Il a dit à Élie, je l'attirerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Des fois, on passe par un désert et on l'a chanté. Seigneur, des fois c'est dur, je passe par un désert, des fois c'est difficile, mais Dieu veut parler à ton cœur. Et je sens là, je pleure un peu parce que je sens que plusieurs ici passent par des déserts émotionnels, par des déserts peut-être dans votre vie. Aujourd'hui c'est difficile, mais Dieu veut parler à ton cœur. Ne cherche pas les réponses à tout. Je ne vais pas vous re-raconter ce que j'ai vécu avec le décès de ma maman, mais je vous encourage, je n'ai jamais eu la réponse au pourquoi elle est partie, mais je sais que Dieu a été là depuis plus de 30 ans et qu'il a pris soin de toute ma famille et il va le faire pour vous, il a déjà fait et il va le refaire, même dans tes déserts, Dieu va pousser un oasis différent peut-être de ce que tu t'attendais, mais Dieu est là et il veut t'encourager ce matin. Alors voilà les amis, c'est un prêche que je savais que je ferais en deux fois, mais je vais m'arrêter là ce matin, je veux vous encourager, je veux juste te rappeler les points. Qu'est-ce qui caractérise un tueur de géants? On n'est pas dans